Portrait de Capiste, 6e épisode. Ils y sont nés, ou ils viennent parfois d'ailleurs. Aujourd'hui, c'est dans le Cap Sizun qu'ils ont décidé de poser leurs valises. Jeanne est originaire de Nevers. Après une carrière engagée et militante en banlieue parisienne, elle continue sa lutte dans le Cap Sizun, défendant notamment les droits des soignants, que ce soit au sein des hôpitaux ou des EHPAD.
Alors, je m'appelle Jeanne Chagnol, qui veut dire en patois ardéchois le chêne. Et mon nom de femme, c'est Henri. Je suis née en 1933, le 27 août. Je dois dire que cette date, 1933, progressivement dans ma vie, m'a interpellée, craignant d'être marquée par l'histoire de 1933 et la montée du fascisme. Pour moi, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience progressivement et qui a sûrement propulsé une défense instinctive pour m'en défaire. De 33 à 39, c'est une vie tranquille ou presque, sans trop d'interpellations. Les prémices de la guerre, je ne suis pas en capacité de les comprendre, mais par contre, dès la déclaration de guerre, je suis les deux pieds dedans. D'abord parce que mon père, même avec 3 enfants, a été mobilisé, comme beaucoup. Avant qu'il parte, on a eu la possibilité de le voir à la caserne, habillé en militaire. Et ça, ça a été un choc, comme si c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, mais dont je caressais le visage avec des grosses larmes. Et donc la guerre nous a amenés à prendre la voiture de mon père et à quitter la zone occupée, qui était Nevers, pour aller en zone libre, en direction de l'Ardèche. On a mis 3 heures pour traverser seulement le pont de Loire, tellement les gens fuyaient. On est descendu au Barutel en Ardèche, la maison des grands-parents. Mais il faut dire que cette période ardéchoise, on a manqué de rien. Et puis un beau jour, un facteur passe à la maison et dit « Il y a 3 prisonniers qui arrivent. » Et les 3 prisonniers, c'était mon père, son frère et un oncle de Méras. Donc on est tous partis sur la route à leur rencontre et ça a été des retrouvailles qu'on n'imaginait pas parce que on avait peur constamment du définitif du départ. Voilà. Après, on a été prévenu que notre maison à Nevers avait été occupée par les Allemands. Donc mon père a dit « pas question, on rentre ». Donc on a pris la voiture et on est rentré. Et mon père a été à la commandanture immédiatement. Et l'officier allemand a dit « d'accord, je libère la maison, mais je suis obligé de vous laisser un militaire ». On a été obligé d'accepter. C'était la transaction pour récupérer la maison. Et quelque chose d'extrêmement touchant, cet homme qui nous était imposé, un jour nous sort les photos de sa famille, nous montre ses enfants et nous prend dans ses bras, ma jumelle et moi, et nous dit « Moi aussi, j'ai pas voulu la guerre. » Et il pleurait. Et ça a été un moment bouleversant, vraiment, et définitif dans ma vie. Quand on est remonté de l'Ardèche à Nevers pour récupérer notre maison, il se trouve que maman a été enceinte et qu'enfin, un garçon attendu est né, mon frère Jean-Claude. Et ça a été un événement important parce qu'à notre place déjà, on attendait un garçon. Sujet de la déception.
De plaines en forêt, de vallons en collines, du printemps qui va naître à tes mortes saisons, de ce que j'ai vécu à ce que j'imagine, je n'en finirai pas d'écrire ta chanson, ma France. Au grand soleil d'été qui courbe la Provence, déjeuner de Bretagne aux bruyères d'Ardèche, quelque chose dans l'air a cette transparence et ce goût du bonheur qui rend ma lèvre sèche. Ma France.
On a déménagé à Colombes le 4 mars 43. Et là, on est passé d'un temps relativement paisible à vraiment la guerre. La deuxième nuit à Colombes, bombardement. On ne savait pas ce que ça voulait dire. En plus de ça, on était dans une maison sans chauffage. Et il y a eu des hivers à moins 17. Ben oui, les hivers de guerre ont été très froids. Donc il y a eu une découverte d'un non-confort, d'une bagarre, la nécessité de se débrouiller. Et c'est une belle école, parce que on se débrouille souvent en solidarité, et on avait la chance d'habiter rue de la Concorde, et cette rue aboutissait place de la Fraternité. Et j'ai l'impression que ça a marqué tous ceux qui habitaient dans ce quartier. Et donc, vraiment une belle solidarité. Quand quelqu'un recevait un colis, on partageait. Sauf que quelquefois, les colis avaient été fauchés en cours de route. Il fallait des tickets pour avoir du pain, du beurre, de la viande et tout ça. En tout cas, pour le pain, moi, je savais comment faire quand on n'avait plus de tickets. Et facilement, ça se savait. Je le disais en disant, si tu veux, je vais aller te chercher ton pain. Si tu n'as plus de ticket, finalement, dans la rue de la Concorde, j'allais chercher le pain un peu pour tout le monde quand les cartes de ticket étaient épuisées. Et c'était rigolo, mais je connaissais donc toutes les boulangers, parce qu'il ne fallait pas que je retourne le lendemain chez le même boulanger pour chercher du pain. Il fallait qu'il m'oublie parce que je l'avais baratiné pour qu'il ne s'aperçoive pas que je m'en aille avec le pain et puis sans donner les tickets. Bon. C'est un apprentissage de la lutte, d'une certaine façon. Hein, et ça m'a beaucoup amusée. Oui, oui, vraiment beaucoup amusée. Et je crois que cette espèce d'insoumission m'habite depuis toujours, quoi. Et elle continue, voilà. Et c'est ce qui me fait rire. Et c'est ce qui me permet de pas crouler de temps en temps dans la vie.
Cette ère de liberté au-delà des frontières, aux peuples étrangers qui donnaient le vertige et dont vous usurpez aujourd'hui le prestige, elle répond toujours du nom de Robespierre, ma France. Celle du vieil Hugo tenant de son exil des enfants de 5 ans travaillant dans les mines, celle qui construisit de ses mains vos usines, celle dont Monsieur Thiers a dit qu'on la fusille, ma France.
La faim, le froid, les restrictions, la débrouille, voilà, c'est un peu toute la période de guerre. Mais en même temps, la fin de la guerre ouvre une porte inimaginable. Un désir de vivre, un désir de créer, un désir des jours heureux qu'on a la chance de voir se mettre en place. Et ça, c'est un cadeau de la vie. Un cadeau auquel on a l'impression quelque part d'avoir participé par notre petit bout de résistance. Donc, quand on a entendu le bourdon de Notre-Dame sonner, et puis toutes les cloches avoisinantes se mettent à sonner, ça a été un bouleversement pas croyable. Et alors avec ma jumelle, on est parti sur les Champs-Élysées, où il y avait un monde fou, où on risquait de se perdre, mais on s'en foutait. On était libérés, même si c'était dangereux. Juste à la fin du départ, j'étais sur un vélo, je rentre à la maison et j'entends, je baisse la tête, c'est une balle qui m'était destinée qui va s'effondrer dans le mur à côté de qui bordait notre maison, mais à ma hauteur. Là, je l'ai échappé belle, mais c'était une tentative de vengeance. C'était de la connerie individuelle d'un individu qui était fou d'avoir perdu la guerre, qui était je sais pas quoi. Il y a eu des bombardements à Colombes, notre rue a été bombardée, il fallait qu'on aille dans les caves la nuit, il fallait que, bon, la nuit, le jour, ma jumelle voulait rester dormir, moi je dormais tout habillée, les pieds dans des chaussures, sur un tabouret, pour être sûre que dès que j'entendais les avions, j'étais réveillée avant l'alerte, d'ailleurs je dormais peu, tellement j'avais peur. Moi j'avais la trouille, ma jumelle était paisible. D'ailleurs, pour nous définir toutes les deux, à l'école maternelle, ma jumelle a eu le premier prix de sérénité dans le sommeil et moi j'ai eu le premier prix d'éloquence. La fin de la guerre pour moi c'est aussi les femmes qu'on tendait. Et ça pour moi, ça a été une révolte. Je vais t'expliquer. Notre maison à Colombes était en face d'un immeuble. Et au quatrième étage, il y avait une dame qui vivait toute seule dans une toute petite pièce. Mais cette dame-là nous avait emmenés pour la première fois, ma sœur et moi, au cinéma. Je crois qu'on avait vu L'Ange Bleu, si je me rappelle bien. Je ne sais plus ce que c'est d'ailleurs, mais il me semble que c'est ça. Donc c'était la première démarche culturelle de quelqu'un de tout simple. Or cette dame avait un amant, vraisemblablement, qui venait la voir, bon. Et un jour, donc, on apprend que sur la place, derrière le commissariat de police, dans le kiosque à musique, on fait monter les femmes qui avaient trahi. Et on les tend. Et parmi ces femmes, il y avait ma voisine. Eh bien, pendant qu'on tondait, moi, je pleurais chaud de larmes. C'était pour moi une injure incompréhensible. Je crois que c'est grâce à cette femme que j'ai compris l'inhumanité que peut engendrer des périodes aussi perturbées que celles de la guerre, de l'après-guerre, et où le beau mot de résistance est un peu sali quelquefois par ces choses-là. C'est pas parce qu'on a été résistant qu'on se donne le droit de juger de cette façon-là et des femmes dans ce qu'elles ont de très beau, leur chevelure.
Picasso tient le monde au bout de sa palette. Des lèvres, des luards s'envolent des colombes. Ils n'en finissent pas, tes artistes prophètes, de dire qu'il est temps que le malheur succombe, ma France.
Alors progressivement, il se passe plein de choses. Parmi les enthousiasmes de fin de guerre, on crée une association avec tous les jeunes, pour la création d'une maison des jeunes et de la culture, et j'ai la chance d'y participer depuis le départ. Et c'est pour moi une aventure phénoménale où le mot éducation populaire reprend cité et où on essaye de se donner les moyens et où on apprend que l'action masse, l'action collective, peut être comme une énergie personnalité, comme une énergie qui avance et qui crée. Et cette envie de créer, elle rebondit dans toute la vie sociale, dans la culture, dans le social. Il y a eu tellement de bombardements à Colombes qu'il y avait des gens qui étaient dans des caves. Et donc, je découvre un visage qui crie. En 1954, l'abbé Pierre. Et dans mon travail d'assistante sociale à Saint-Denis à ce moment-là, je rejoins l'abbé Pierre avec toute une bande de copains de Colombes et on commence à créer un comité d'action et d'union pour le logement de façon à agir dans l'urgence, c'est-à-dire c'est pas possible de laisser les gens dans ces conditions de vie et donc on fait des squattages. Et donc un apprentissage. Le squattage. Et alors là, on a fait des choses pas croyables. On a investi un ancien hôtel désaffecté et avec Il y avait des architectes avec nous, des avocats, des les gens du quartier. Et les hommes entrent avec une serviette de toilette sur le bras pour simuler qu'ils vont voir des prostituées. Et on installe plein de familles là-dedans. Je crois qu'on a installé une dizaine de familles. Tu vois, l'épidémie de squattage nous prend à plusieurs, hein. Et je suis facilement convoquée par le commissariat de police pour... C'est vous qui faites ça. Oh, alors j'apprends à mentir avec une... Comment voulez-vous que je fasse, moi? Mais vous voyez comment je suis, comment... En fait, on avait toute une organisation magnifique derrière. Et on savait travailler la nuit, on savait travailler le jour, voilà. Et ça, c'est magnifique, c'est voilà. Et c'est ça qui est magnifique. Il y a des problèmes, mais on n'est pas sans solution. Et ça, c'est énorme. Quand tu as ça dans la tête, tu ne te laisses pas enfermer par des lois idiotes, par des préfets qui déconnent, et par des administratifs qui se sentent plus forts que les élus et qui ne tiennent pas compte, y compris de la législation, qui font ce qu'ils veulent parce qu'ils sont bien placés. Voilà. Et aujourd'hui, c'est toujours valable. Voilà. Bon. Quand j'ai commencé à avoir ma première paye, j'ai eu envie de retourner à Nevers. Donc, me voilà partie. Et sur le passage, j'ai dit, je vais quand même aller voir un peu à l'école Notre-Dame de Lourdes. Qu'est-ce que ça devient, hein? C'est pas que je n'avais un bon souvenir, hein, tellement, parce que on nous tapait sur les, doigts quand on avait fait quelque chose de pas bien, tu vois. C'était quand même une forme de maltraitance malgré tout, hein. Ouais. Bon, j'arrive et je trouve la mère supérieure que je connaissais. Oh, Jeanne, mais qu'est-ce que vous devenez? Et alors la voilà qui me montre des photos, des trucs, des machins. D'un seul coup, je me prends une envie de pisser. Et pendant qu'elle me parle, je me dis, bon, j'arrive, elle ne m'a pas vue depuis des années, je ne peux pas commencer à lui dire que j'ai envie de faire pipi. Donc, je me retiens tant que je peux. Puis au bout d'un moment, je dis, ma mère, excusez-moi, mais il faut que je parte parce que... J'ai un quart à prendre pour aller à Saint-Coin. Oh, ben Jeanne, je vais vous accompagner dans le jardin. Mince, je m'étais dit que la laissant derrière la porte, j'allais aller faire pipi dans son jardin. Bon, j'arrive au bout du jardin. Elle me dit, Jeanne, oh, il faut que... Et on passe la porte. Alors là, je me dis, bon, dès qu'elle est partie, je vais aller faire pipi derrière l'église. Bon, et puis, elle continue. Elle passe la propriété. Elle me dit, oh Jeanne, il faut que je vous raconte quelque chose. Figurez-vous qu'il y a eu des gitans qui sont venus et qui nous ont volé toute notre argenterie. À ce moment-là, je me mets à me laisser aller de toute l'urine emmagasinée et je lui dis, c'est bien fait. Voilà. Et donc, à ma place, il y avait une grande rondelle mouillée. Évidemment, je suis partie presque en courant, la laissant avec mes dires, et je suis rentrée dans l'église, quittée ma culotte, trempée. Heureusement, j'étais en jupe, j'avais pas un pantalon, voilà. Et j'ai donc pris mon autocar pour Saint-Coin, sans culotte, sans coin et sans culotte.
Se multiplient à n'en plus faire qu'une. Celles qui pètent toujours vos crimes, vos erreurs. En remplissant l'histoire et ces fausses communes que je chante à jamais, celles des travailleurs. Ma France, celles qui ne possèdent en or que ces nuits blanches. Pour la lutte obstinée de ce temps quotidien, du journal que l'on vend le matin d'un dimanche, à l'affiche qu'on colle au mur du lendemain, ma France. France. Qu'elle monte des mines, descende des collines. Celle qui chante en moi, la belle, la rebelle. Elle tient l'avenir, serré dans ses mains fines, celle de 36 à 68 chandelles. Ma France.
J'ai eu la chance de vivre 68. Parce que ça ne pouvait être que, pour moi, comme un agrandissement de tout ce qui essayait de se construire depuis la fin de la guerre et les jours heureux et tout ça. Parce que, évidemment, le capitalisme avait repris ses marques. Et donc, un soulèvement passionnant. Et j'étais presque au premier rang puisque je travaillais à la limite de Colombes, près du grand bidonville de Nanterre, où il y avait 4000 immigrés. C'était un petit hameau. Et la fac de Nanterre, le 22 mars 68, est partie de la fac de Nanterre avec les étudiants. Mais moi, comme j'étais travailleur social sur ce quartier, non seulement je faisais des squattages, je défendais les immigrés, enfin bon, et je traversais le boulevard Charles de Gaulle qui me séparait de Nanterre pour rentrer au bidonville de Nanterre, où là, j'ai mesuré le bon et le moins bon. D'abord, c'était une ville. Il y avait des petits commerces, il y avait des boucheries, il y avait des épiceries. Il y avait une dignité humaine rassemblée là, une dignité qui se défendait. Il faut dire que à proximité, il y avait sur le boulevard le MNA, nuit et jour, avec un fusil à la fenêtre. Et sur mon quartier, il y avait le FLN, dans un petit bidonville, où il y avait 180 familles et 147 célibataires. Voilà. Alors, 68, on a occupé nos locaux. Le petit centre social dans le bistrot, et la MJC qui n'était pas encore Théâtre de Colombes, on l'a obtenu après parce qu'on s'est bagarré pour avoir... On avait déjà une petite salle à la MJC de 600 places, mais ce n'était pas assez. On venait venir des grands. Et on était en grève, voilà, avec tous les gens du quartier et les entreprises, les petites entreprises sur le trottoir avec des panneaux en grève. Et ça, je vais te dire, comme apprentissage de lutte, c'est épatant. Il y a eu des affrontements entre l'extrême gauche, les communistes, les catholiques, et pourtant, pendant tout le temps de la guerre, on avait vécu une belle solidarité, tu vois. Une belle solidarité qui avait su se départir d'appartenance pour aider, pour soulager, pour répondre aux premiers besoins des gens, tu vois. Et ça, ça avait été magnifique. Et les démons de la politique ont repris. Et je pense que les démons de la politique, tant qu'on base la politique prise seulement du pouvoir, par certains, et non pas par l'ensemble des citoyens, avec des représentants, eh bien, on est en échec. Finalement, la proximité, qu'il s'agisse des hôpitaux de proximité ou du service public de proximité, c'est essentiel dans la vie sociale des gens. Voilà. Les désastres de la guerre, donc, avec l'absence de logement, les fixations de populations comme des gitans, ça, c'était magnifique. Ça, c'était magnifique. Moi, j'ai vécu des moments avec les gitans extraordinaires. Ah oui. Et on faisait des feux de Saint-Jean, où une année, on a fait venir... des jeunes gitans qui chantaient, et ça a valu des... Dans ces feux de Saint-Jean, on était presque 2000 rassemblés, ça venait de tous les coins. Une autre année, j'ai fait venir Marguerite Taos Amrouche, qui est la sœur de Jean Amrouche, qui a signé les accords d'Évian, et qui chante les chants berbères de Kabylie. Et c'était bouleversant d'entendre cette voix gutturale Un soir, presque dans la pénombre, chanter en arabe, en kabyle, c'était... J'ai un souvenir de ça. Bon, donc des liens culturels avec les groupes qui composaient le quartier, tu vois. Ouais, c'était beau. C'était beau, oui.
I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift. The baffled king composing hallelujah, 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 hallelujah,
hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.
J'ai commencé à me bagarrer un peu dans l'élan de l'abbé Pierre, dans l'élan de mes lectures, dont le principal, c'est Pierre Teilhard de Chardin, qui pour moi a bouleversé ma vie et m'a libérée. Ah oui, ouais, ça je veux dire. Depuis que je suis arrivée dans le Cap Sizun, j'ai tout de suite pris contact avec l'hôpital de Douarnenez, dont le directeur est commun aux EHPAD d'Audierne et de Pontcroix. Et je pense que c'est prévenu par les liens avec l'hôpital de Douarnenez que j'ai appris que les personnels de l'EHPAD d'Audierne se mettaient en grève au départ deux jours par semaine, de 13h à 14h. Et donc j'ai pris contact avec eux et on a décidé de faire des pétitions et de rameuter un peu les uns les autres pour faire signer. Donc on s'est retrouvé toute une équipe sur le marché et on a tout de suite sympathisé parce qu'on était pris dans un mouvement qui nous reliait les uns les autres. Et progressivement, on a écouté tout ce qu'ils avaient à nous transmettre par rapport à leurs difficultés pour eux-mêmes en tant que professionnels et sans personnel suffisant pour répondre aux besoins des résidents, et à la fois par rapport au climat qui était fait pour les résidents, avec du temps insuffisant pour s'occuper d'eux, du matériel qui ne correspondait plus aux besoins, et un ensemble de choses du même style, voilà. Et progressivement, il s'est tissé entre le personnel de l'EHPAD et ce qu'on a constitué ensemble, un collectif citoyen, une équipe assez dynamique, et puis en souci de faire savoir à la population que ce n'était pas une petite lutte dans un coin, mais que c'était une lutte pour la santé comme celle qu'on menait déjà depuis des années pour l'hôpital de Douarnenez. Et progressivement, en évoluant, on s'est posé la question comment avertir d'une façon plus festive et à la fois plus informée l'ensemble des habitants du Cap Sizun, d'Audierne, du Cap Sizun. Et donc nous est venue l'idée d'un spectacle au Goyen. Et je pense que là, on a beaucoup contribué, le collectif citoyen a beaucoup contribué à persuader, y compris les personnels, que ça pouvait être quelque chose d'important pour l'information des gens. Ce qui était intéressant, c'est de savoir que ça a touché au-delà du Cap Sizun, mais que des militants de Douarnenez sont venus se joindre à nous, ayant conscience que la lutte que eux menaient à l'hôpital de Douarnenez, proche de chez eux, elle était complètement liée à la lutte de l'EHPAD à Audierne. et renforcée par une conscience syndicale à un moment donné assez vive, où on nous disait attention, ce que vous êtes en train de faire concerne un petit peu, vous êtes très regardés dans la France entière. Je crois que les personnels, en déclenchant cette grève, ont renforcé une lutte qui a été sous-jacente un peu partout et qui a pris corps et qui a peut-être servi à certains moments d'exemple pour certains grâce aux films, grâce... voilà. Bon, durant ces rassemblements, nous tournions autour du bâtiment de l'EHPAD et aux fenêtres, on voyait apparaître des têtes, soit de personnel, soit de résidents, qui avaient envie de nous témoigner leur accord et leur joie de nous voir. Et ça, on s'apercevait, en revenant le mardi et le jeudi, on s'apercevait qu'ils nous attendaient. Voilà. Et progressivement, donc, on s'est mis à chanter, ce qui a sûrement dû déplaire aux représentants de la direction, qui nous a chassés de devant la porte de l'EHPAD, nous demandant de descendre au-delà de leur propre vision, parce que nous étions des êtres gênants. Donc on a continué à écouter l'évolution de leurs conditions, et on a eu par moments des témoignages extrêmement humains. Moi, je me souviens de cette jeune femme qui, en arrivant, m'a dit « Tu sais, Jeanne, je n'en peux plus, je crois que je vais lâcher », et elle s'est jetée dans mes bras en pleurant. Voilà. Alors, c'est des moments très, très émouvants où tu te dis « elle tient plus, elle n'en peut plus », comme d'autres également n'en pouvaient plus. Et en même temps, dans ce même temps, il y avait les résidents qui venaient nous rejoindre quand on était encore acceptés à l'intérieur du bâtiment et qui disaient « Votre lutte, c'est aussi la nôtre. » Il y en a plusieurs qui nous ont dit ça, et en disant « Moi, quand j'étais plus jeune, j'étais militante communiste, tu nous as dit, et je n'oublie rien. Et même si je ne peux pas marcher avec vous, je suis en chaise roulante, mais je dans ma tête et dans mon cœur, je suis avec vous. »
Gracias a la vie. Me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes el hombre que yo amo.
Ben, j'essaie de m'amuser dans le cap aujourd'hui, de pas gâcher l'instant. Et en même temps, j'évolue qu'est-ce qui est essentiel. Qu'est-ce qui est essentiel? Ce qui est essentiel, c'est on est un être de nature, au même titre que les animaux, que les arbres, que les petites plantes. Tu sais, il y a une chanson qui dit « Ayez le souci constant, n'épargnez tout en marchant, le citise, la verveine et la moindre fleur des champs. Sachez qu'une fée habite au sein des coquelicots, au sein de chaque pavot et de chaque marguerite ou pavot. » Et ça, là, j'évolue là-dedans d'une façon pas croyable. C'est-à-dire que moi qui ai toujours aimé les arbres, comme une personne, pour moi, tu vois, quand on a quitté Dreux, on avait un cerisier qui nous a donné des cerises comme jamais. Et le matin du départ, je l'ai enlacé, je l'ai embrassé et je lui ai dit merci. Ce que je fais souvent avec les arbres. Moi, avec les arbres, je m'assois et je m'appuie et je leur demande de me verser l'énergie. Je parle aux arbres comme je parle à une personne. Je suis très sensible à leurs vêtements. J'adore quand ils sont nus l'hiver. Ils sont dépouillés. Et j'adore quand le printemps arrive. Et j'adore quand ils acceptent l'automne. Tu vois ? Et c'est aussi un message pour nos vies, ça. Il faut savoir recevoir dans nos vies les saisons. Mais ça, c'est l'apport des uns et des autres aussi, hein, tu vois. Et grâce à tous les contacts que j'ai avec chacun de vous. Hein.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados, con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y